Africa.
Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et dans votre émission ce soir, qu'est-ce qui fait courir autant les dirigeants européens en Libye? C'est le thème donc de votre émission, mais retrouvons d'abord notre invité sur la Côte d'Ivoire.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Prégnant Claude Naï, bonjour.
Bonjour madame.
Enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Péléforo Ngon Koulibaly de Korogo en Côte d'Ivoire, Patrick Hachi a été confirmé au poste de Premier ministre ivoirien par le président Alassane Ouattara. Est-il celui qui était naturellement attendu à cette fonction?
C'est pas une grande surprise, hein, parce que quand on voit la manière de procéder du président Ouattara, le constat, c'est que le président Ouattara, il nomme aux hautes fonctions les plus importantes les collaborateurs avec qui il a déjà travaillé. Mais surtout les collaborateurs qu'il a initiés à sa manière de travailler, à sa manière de voir les choses, à sa manière de conduire les affaires publiques. Et donc, en réalité, quand on constate les différents premiers ministres qui ont travaillé avec le président Ouattara, ce sont des personnalités qui sont habituées à son fonctionnement, qui sont habituées à sa vision, qui ont été initiées effectivement aux outils de gestion de M. Ouattara. Donc, M. Hachi Patrick a fait classe auprès du président Ouattara. Il a été secrétaire général de la présidence, il a aidé aux affaires, il a géré de grands dossiers.
Notamment ancien ministre Ouattara, des infrastructures économiques et porte-parole du gouvernement
tout
aussi.
Tout à fait. Et il a géré des dossiers importants, surtout dans le cadre de la relance économique, la reconstruction post-crise.
Et Patrick Hachi remplace le très populaire Ahmed Bakayoko décédé. Les deux hommes ont-ils des qualités en commun?
Le premier ministre Mohamed Bakayoko, pour utiliser l'expression du président, est le fils du président, il est l'un des fils du président. Lui-même, il est l'un des discours assez délai dans sa région natale. Tout ce qu'il fait, c'est le président qui lui a appris ça. Mohamed Bakayoko, par exemple, était un autodidacte. Mais dans la gestion des affaires publiques, dans le management, dans tout ce qu'il a dû apprendre, tout ce qu'il a pu acquérir, selon ses propres termes, il a appris auprès du président Ouattara.
Mais quelle est la différence entre Ahmed Bakayoko et Patrick Hachi?
Vous savez, la fonction de premier ministre en Côte d'Ivoire, il y a deux dimensions. Il y a une dimension politique et une dimension technique au regard des attributions. Et donc, la dimension politique se résume un peu à la conduite du dialogue politique. Et ce que j'ai constaté, c'est que quand le Premier ministre d'alors était aux affaires, apparemment, le Président avait essayé de diviser les tâches en deux grands groupes. Les tâches les plus techniques étaient dévolues à M. Hachi Patrick et la dimension politique de la fonction à M. Ahmed Bakayoko. Certainement parce que le Président avait certainement voulu donner un coup d'accélérateur au dialogue politique. Donc, il avait certainement voulu que le leadership de M. Ahmed Bakayoko puisse servir au dialogue politique. Mais dans les faits, les dossiers sensibles les plus importants ont été dévolus à M. Hachi Patrick, qui, entre-temps, est monté comme ministre d'État. Et donc, ce qui fait la différence, c'est justement que M. Hachi Patrick, il est plus technocrate
que politique.
Il est quelqu'un d'effacé, il est plus technocrate que politique. Et M. Ouattara, justement, c'est le profil qu'il donne à ses premiers ministres.
Patrick Hachi, dites-vous, plus technocrate, Bakayoko était plus politique, mais l'ancien Premier ministre lui laisse un de ses politiques, celui de la réconciliation. Patrick Hachi, a-t-il des chances de réussir?
Moi, je ne crois pas que Patrick Hachi va s'occuper du dialogue politique. Patrick Hachi va s'occuper des grands projets économiques, des grands projets de transformation structurelle de l'économie, de la transformation des appareils de l'État. Le président a pris la peine de créer un poste de ministre des Affaires et de la Réconciliation nationale. Je pense que c'est ce ministre-là qui sera chargé de conduire le dialogue politique.
Donc, avec Patrick Hachi, Konan Kwadio, nommé au ministre de la Réconciliation, aura plus de travail et plus de marge de manœuvre?
Tout à fait. Parce que je pense qu'il aura du boulot. Parce que ces missions-là lui seront réellement et matériellement dévolues. Parce que M. Patrick Hachi n'a pas le profil. M. Patrick Hachi, il peut le faire, c'est un travail administratif, mais en réalité, il n'a pas de leadership pour conduire une politique. Et lui-même, il n'est pas forcément au sein des réalités politiques. Donc, je pense que cette mission sera réellement dévolue au ministre de la Réconciliation nationale et au ministre de la Cohésion sociale. On oublie souvent dans cette affaire. Il est chargé ici de contribuer au retour de la paix sociale en Côte d'Ivoire.
Il doit présenter dans les meilleurs délais un gouvernement. Après les législatives qui donnent un nouveau visage à l'Assemblée nationale et la volonté, semble-t-il, du président Ouattara à aller réellement vers la réconciliation, l'opposition devrait-elle y faire son entrée?
Bon, déjà, il faut dire que la position du président Ouattara sur l'entrée d'une opposition dans son gouvernement n'a pas toujours été positive. Hein. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Effectivement, M. Ouattara après l'élection présidentielle, a appelé l'opposition à la discussion, au dialogue politique. Et déjà, à ce niveau, ça peut véritablement contribuer à faire évoluer l'approche de M. Ouattara sur l'entrée de l'opposition dans le gouvernement.
Prégnant Claude Naï, merci beaucoup.
Merci, madame.
Enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Péléforo Ngon Koulibaly de Korogo, en Côte d'Ivoire.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
18h15 à Paris, bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous parlons de la Libye ce soir. Qu'est-ce qui fait courir autant des dirigeants européens dans ce pays? Et nous en débattons dans votre émission avec trois invités. Michel Skabanki, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes ancien député européen et spécialiste de l'Afrique et de la Libye. Emmanuel Dupuis, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, président de l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, IFSE. Et avec nous également, Ouda Ibrahim. Bonsoir, Ouda.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, chers consoeurs. Vous êtes journaliste et spécialiste à Libye, à Radio France Internationale. Je le disais en début d'émission, et je vais commencer d'ailleurs avec vous, Ouda. Réouverture de l'ambassade de France ce lundi en Libye. Il y a eu également la réception à l'Élysée du nouveau président libyen, de même que le déplacement à Tripoli de trois ministres européens des Affaires étrangères, la France, la Libye, l'Allemagne. Qu'est-ce que vous, Libyens, pensez de ce déplacement, de ce remue-ménage diplomatique?
Et d'abord, je ne suis pas libyenne, mais j'essaye de couvrir les actualités libyennes depuis 2011. Et donc, à partir de là, effectivement, on remarque ces déplacements qui a été pour marquer, en fait, une nouvelle période de relations de l'Europe avec la Libye, c'est-à-dire le président français, lors de sa réception du président du Conseil présidentiel libyen, a affirmé que désormais l'Europe va parler d'une seule voix concernant la Libye. Durant les quatre dernières années, on a vu comment l'Europe, même au sein des Nations Unies, s'est déchirée à propos de ces dossiers très compliqués et par rapport chaque pays, par rapport à ses intérêts, on a vu comment ça a failli être la crise diplomatique entre Rome et Paris à cause de ces dossiers. On a vu aussi même des différences avec l'Allemagne, entre le couple français-allemand autour de ces dossiers. Donc aujourd'hui, effectivement, avec le gouvernement d'intérim, ce gouvernement unifié, l'Europe, la France, l'Italie, l'Allemagne et même la Grande-Bretagne essayent de tourner la page, de se redéployer dans ce pays. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que c'est la Turquie et la Russie qui sont le plus présents et militairement et économiquement en Libye, et que la France et les autres Européens essayent de revenir, essayent de avoir plus de crédibilité par rapport au passé, par rapport à ce dossier.
Merci beaucoup, Ouda, et merci également d'avoir précisé. Donc, je confesse que j'ai été mal renseignée donc, sur votre nationalité. Emmanuel Dupuis, Ouda vient de dire fini les rivalités, comme on en a vu entre Français et Français allemands ou encore entre Italiens et Français. Quel est finalement ce message? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un message d'unité que les Européens veulent peut-être adresser aux autres grandes puissances qui sont également présentes en Libye?
Oui, c'est la raison pour laquelle les trois ministres des Affaires étrangères, allemands, ECOMAS, français, Jean-Yves Le Drian et Luigi Di Maio, se sont rendus à Tripoli le lendemain de la rencontre entre le président Mohamed Al-Menfi et son vice-président Abdullah Al-Lafi, Moussa Al-Khoni, à Paris. Un message d'unité, mais qui ne cache quand même pas une réalité géopolitique que chacun évoque. C'est-à-dire qu'ils sont de toute façon marginalisés. Et ce n'est pas l'ouverture d'une ambassade française qui a été fermée depuis 2014 qui va y changer quoi que ce soit. L'ambassade italienne est restée ouverte depuis 2011. Ça n'a pas empêché, évidemment, l'ingérence de puissances extérieures.
Notamment la Turquie et la Russie.
Pas seulement. On a toujours coutume de n'évoquer, le président Emmanuel Macron est assez familier quand il évoque les ingérences extérieures en ne mentionnant que la Turquie et la Russie. Il oublie les Émirats arabes unis, l'Égypte, et il oublie évidemment les 20 000 ressortissants étrangers, notamment des mercenaires qui viennent de Syrie, du Soudan, ou du Tchad, ou du Niger. Donc bien évidemment, c'est une question qui était importante d'adresser parce qu'il y a une sorte de course de vitesse.
Excusez-moi, monsieur Dupuis, juste une précision. Hein, je ne veux pas vous couper l'élan de votre analyse, mais pourquoi cette omission? Est-ce que c'est une omission volontaire? Pourquoi la France parle généralement de ces deux pays, la Turquie et la Russie, mais pas des autres? Est-ce qu'il y a...
il faut le demander au président Macron. Moi-même, je suis assez étonné qu'à chaque fois, d'ailleurs, la formule sibylline qu'il utilise, c'est nommément de citer le jeu des puissances, Russie et Turquie, et les actions diplomatiques d'autres pays, en ne mentionnant pas les deux partenaires importants, économiquement parlant et diplomatiquement parlant, que sont l'Égypte et les Émirats arabes unis en particulier. Donc il faudra sans doute demander au président, mais néanmoins, pour répondre à votre... plus précisément à votre question, on a effectivement le sentiment qu'il y a une accélération de la temporalité politique. Pourquoi est-ce que le président français a reçu le président du Conseil présidentiel? C'est que tout simplement, leur élection le 5 février dernier, avec le ticket formé avec le Premier ministre Abdelhamid Dabaïba, était une surprise. La France n'avait pas misé sur ce ticket présidentiel.
Il y a eu d'ailleurs de soupçons de corruption.
Il y a eu effectivement un rapport de l'ONU qui est sorti il y a de cela une semaine précisément, qui évoque le fait que pour au moins trois cas avérés, il y a eu corruption, mais néanmoins l'ONU a tenu à préciser, le nouveau représentant spécial des Nations Unies, Jankovic, a tenu à préciser que ça ne faussait pas le vote des 75 représentants qui ont voté donc pour ce nouveau ticket présidentiel. Donc d'une phrase pour laisser la parole ensuite à Michel Scaramucci, il y a effectivement une accélération. Une des raisons pour laquelle la France a voulu recevoir le président du Conseil présidentiel, c'est que quelques jours avant, deux visites importantes se sont déroulées. La première visite d'un chef d'État étranger, Kais Saïd, le président du pays voisin, la Tunisie, et puis bien évidemment la visite du ministre des Affaires étrangères italien, qui était accompagné pour l'occasion du PDG de l'ENI, Ente Nazionale Idrocarburi, Claudio Descalzi. On voit que la
France
politique accélère la stabilisation ou la perspective de l'exploitation des 48 milliards de barils de réserves prouvées en Libye.
Merci, M. Dupuis. Alors, M. Scarboni, quand on écoute M. Dupuis, on a l'impression que la France tente de vite se rattraper parce qu'elle avait l'impression d'être doublée sur le terrain par les autres.
Non, madame, pour répondre aux deux questions que vous avez posées, pourquoi le président Macron cite toujours la Russie et la Turquie? C'est parce qu'il ne cite pas les pays qui ont vendu des armes aux deux belligérants, c'est-à-dire à Tripoli et à Benghazi, c'est-à-dire le Qatar, l'Égypte, les Émirats arabes unis, entre autres. Et il ne cite que ceux qui ont des troupes présentes. Alors les Russes avec la société Wagner, qui sont des mercenaires, et la Turquie avec des troupes, des officiers, des soldats, et surtout tous les islamistes syriens que la Turquie a emmenés, près de 2500. Et qu'on a retrouvé après dans la guerre du Haut-Karabakh. Voilà. Mais la deuxième question, c'est pourquoi brusquement cet empressement de l'Europe? Il faut avoir à l'esprit que pendant près de 4-5 ans, la France a été le seul pays européen, un peu avec l'Italie, mais l'Italie qui jouait souvent double jeu, un coup avec Benghazi, un coup avec Tripoli, la France a été le seul pays européen à soutenir, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et pour protéger ses propres troupes qui se trouvaient au Sahel engagées dans les combats contre le terrorisme, la France a soutenu Benghazi. Alors que l'ONU, n'oubliez pas que l'ONU jouait Tripoli, l'ONU, les instances internationales jouaient Tripoli. Et quand on voit le...
Avec le gouvernement de Sarraj, qui était le gouvernement supposé légal et reconnu par la communauté internationale.
Supposé légal et qui organisait tous les trafics pendant 5 ans, hein, pas seulement les migrants, l'esclavage, la drogue, les armes, j'en passe des meilleurs.
Donc vous dites que c'est pour cela que la France soutenait le général Haftar dans cette crise ?
Complètement. Et donc, la France est d'autant plus légitime qu'elle s'est engagée, elle, vraiment, et on est le seul pays à avoir pris le dossier libyen à bras-le-corps, ce que l'Union européenne n'a pas fait. L'Union européenne vient maintenant, et elle vient maintenant, pourquoi ? Parce qu'il y a la reconstruction de la Libye, ce qui est un formidable marché pour les pays européens, pour l'Union européenne. C'est pour ça que vous avez l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, tout le monde est là. Formidable marché, pourquoi ? Parce que vous avez la reconstruction de toutes les villes qui ont subi des dommages terribles depuis 11 années. Hein, vous avez 30% de Benghazi à reconstruire, vous avez 100% de Sirte, 80% de Tobrouk, etc. Et donc c'est un formidable marché pour les entreprises européennes. Voilà brusquement pourquoi il y a un engouement pour la Libye. Alors il faut se féliciter de l'accord de paix qui a été trouvé. Hein, moi-même je n'y croyais plus. Hein, avec M. Manfi d'un côté et M. Baghdadi de l'autre. Hein, donc, toutes les tribus, toutes les parties sont représentées. Donc, on devrait, et les soutiens sont unanimes. Donc, on devrait arriver à pouvoir engager le processus, un, de démocratisation de la Libye. N'oubliez pas que malgré la mise en place du nouveau conseil présidentiel et du nouveau gouvernement, le plus dur reste à faire. C'est-à-dire, il faut maintenant une nouvelle constitution, parce qu'il faut prévoir un code électoral et il faut prévoir l'élection d'un président de la République au suffrage universel.
Fin décembre.
Ce qui n'existe pas dans la constitution actuelle. Est-ce qu'on pourra tenir les enjeux en termes de sécurité et d'organisation d'une élection au mois de décembre ? Je l'espère. Bon, ce n'est pas essentiel. Si on ne la fait pas en décembre, on la fera au premier trimestre 2022. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que la Libye puisse se réconcilier, que la Libye puisse se reconstruire, qu'elle retrouve sa souveraineté, que les troupes étrangères, essentiellement turques et russes, quittent le pays. Alors on sait très bien que ça ne sera pas facilement. On sait très bien qu'il faudra en payer un prix. Le prix sera probablement, pour Tripoli, de donner des bases, de donner une base navale et un aérodrome aux Turcs sur la partie Misrata Tripoli, et à Benghazi de donner probablement à Tobrouk une base navale peut-être aux Russes. Ce sera le prix à payer.
Hein, mais d'accord. Les Turcs, là, on est clairement dans le partage
Mais dans la réelle politique, c'est tout. Ces pays qui se sont engagés de part et d'autre vont pas s'en aller maintenant pour laisser la place aux Européens. Il faut pas rêver. Hein, donc ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, pour les Russes c'est surtout, et les Turcs, c'était surtout de pouvoir avoir des gisements de pétrole et de gérer les réserves dont parlait tout à l'heure Emmanuel Dupuis. Hein, 48 milliards de barils. Donc ça intéresse les deux puissances qui se sont le plus engagées militairement dans ce conflit.
Merci beaucoup. Bon. Merci Monsieur Scarboni, merci à Ouda Ibrahim et à Emmanuel Dupuis. Je vous invite à observer une très courte pause et puis on reviendra évidemment poursuivre notre débat sur l'offensive diplomatique européenne en Libye.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Les pays européens ou des pays européens multiplient les initiatives en Libye et nous en débattons ce soir avec trois invités. Michel Scarboni, ancien député européen spécialiste de l'Afrique et de la Libye. Ouda Ibrahim, journaliste à Radio France Internationale et spécialiste de la Libye. Et Emmanuel Dupuis, président de l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, IFSE. Ouda, vous êtes là, vous m'entendez ? Allô, Ouda Ibrahim ?
Allô ? Oui, je vous entends.
Voilà.
Oui, je vous entends.
Vous avez écouté les deux autres participants à ce débat, hein, mais quand on a finalement l'impression que la Libye, c'est un morceau de gâteau dont chacun veut clairement sa part.
Tout à fait. Ce qui est logique, si on regarde chaque pays avec ce qu'elle veut comme intérêt, ce qu'elle veut réaliser, des intérêts économiques. On sait tout à fait aujourd'hui que les guerres au monde ne sont plus comme les guerres d'avant. Au contraire, ce sont des guerres économiques. Et c'est effectivement chacun qui va essayer de prendre une part plus grande que les autres dans la reconstitution de la Libye. On sait très bien que la Turquie, par exemple, a déclaré à multiples reprises qu'elle va multiplier par 9 ses investissements en Libye et revenir, c'est-à-dire quand on parle des investissements, c'était avant 2011. On sait très bien que la Turquie était très très présente économiquement en Libye pour construire des routes, des bâtiments, pour des petites sociétés.
Et elle a même signé d'importants accords avec le gouvernement sortant de Sarraj, que les nouvelles autorités veulent maintenir d'ailleurs.
Tout à fait. Ils ont signé un accord dans ce sens avec le gouvernement Sarraj. Le nouvel exécutif va le maintenir et il va également maintenir l'accord maritime qui consiste à ce que la Turquie fasse des recherches sur le gaz et extrait ce gaz dans l'est de la Méditerranée et que la Libye ait son quota dans tout ça. Donc effectivement, c'est un marché très très grand. Il faut rappeler que la Libye, c'est la première réserve pétrolière et en hydrocarbures en Afrique. Il faut rappeler qu'il y a de l'or. Il faut rappeler que c'est effectivement, comme le monsieur Scarbonci a rappelé, c'est vraiment un pays où il y a tout à reconstruire, il y a les institutions à refaire, il y a des stages à donner dans tous les domaines, il y a des jeunes à former dans tous les domaines. Donc c'est vraiment un marché très très grand aujourd'hui et on voit que chaque pays essaye d'avoir le maximum, effectivement.
Est-ce que l'Europe n'arrive-t-elle pas un peu tard par rapport à la position d'un pays comme la Turquie que l'un des intervenants a décrit tout à l'heure?
Oui, quand on parle de l'Europe, il n'y a pas tous les pays européens qui sont impliqués et l'Europe n'agit pas en tant qu'entité en Libye. Donc si on parle de l'Europe, on parle surtout de la France, de
l'Italie
la Grande-Bretagne
et l'Allemagne.
Et de l'Italie. Voilà. Et on voit très bien, malgré le discours affiché de l'unité aujourd'hui par rapport à la Libye, que chaque pays, on a vu que le ministre des Affaires étrangères était tout de suite en Libye. Il y a une visite prévue du premier ministre italien dans les prochains jours à Tripoli. On voit qu'il y a une sorte de course qui s'est engagée entre tous ces pays, ces trois pays, un peu l'Allemagne. Mais surtout entre la France, l'Italie et la Grande-Bretagne par rapport à tout ce qu'il y a comme marché en Libye dans tous les domaines. Maintenant, effectivement, pour répondre à votre question, est-ce que la France n'arrive pas un peu tard? Si, elle essaye de se rattraper, elle essaye de rattraper ce qui s'est passé par rapport à la Turquie, par rapport à la Russie. Et effectivement, on cite toujours ces deux pays parce qu'ils sont le deux pays
qui sont en pole position, on va dire.
Pas seulement militairement, même si la Turquie économiquement est plus présente que la Russie. On sait que la Russie est plus intéressée par le côté militaire parce que la Libye, pour elle, c'est un pied pour... D'un côté, pour arriver à la mer Méditerranée et l'eau chaude, et de l'autre côté, pour entrer dans l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne. Et c'est ça, la présence russe.
Merci.
Et effectivement, c'est une course aujourd'hui, et effectivement, la France est en retard, et elle doit rétablir son image, parce que le fait que la France a participé directement ou indirectement à côté d'un camp du conflit passé, ça ne l'a pas aidé, au contraire.
Justement, et le camp du vaincu.
D'abord, la France doit rétablir son image en Libye pour pouvoir revenir. Les Libyens veulent travailler avec tout le monde. Ils n'ont pas de problème avec la France ni avec les autres pays, mais il faut savoir y revenir.
Voilà. Merci beaucoup. Alors, M. Scaboni, est-ce que le discours d'Emmanuel Macron qu'on a entendu confesser en quelque sorte de manière tacite la responsabilité de la France, en tout cas, il a déclaré que la France a une dette envers la Libye. Est-ce que ce discours participe-t-il à cette tentative de la France de rattraper son retard, comme le disait Ouda Ibrahim, en Libye?
Le président Macron a été courageux, parce que dire que la France a une dette à l'égard de la Libye, c'était le moins qu'on puisse faire. C'est nous qui avons déclenché cette guerre injuste avec les Anglais, qui avaient au début comme mandat de protéger la population de Benghazi et qui s'est transformé en conquête de la Libye et en liquidation de Muammar Kadhafi. Bon, et pour un résultat qui est quoi ? Qui est la guerre au Sahel. Donc vous voyez les conséquences terribles pour l'armée française, pour le budget de la défense de la France, pour nos intérêts en Afrique de l'Ouest et en Afrique tout court, les conséquences de cette guerre absurde. Parce que quand on fait la guerre, il faut savoir faire la paix. Le problème, c'est que Sarkozy a fait la guerre, Hollande a été incapable de faire la paix parce qu'il n'a jamais voulu se mêler du dossier libyen, alors que c'était notre responsabilité première. Et le nouveau président de la République, enfin le nouveau, qui est là en place depuis maintenant, qui est à la fin de son mandat pratiquement, et il a le courage, lui qui a pris à bras-le-corps ce dossier-là, n'était pas facile, et il a le courage de dire que nous avons une dette. Je remarque d'ailleurs que la première visite de M. Al-Manfi, le président du Conseil présidentiel, est pour la France et pour M. Macron. Donc c'est un signe important, tout autant que celle du Premier ministre quand il s'est rendu en Égypte chez M. Al-Sisi. Donc ça prouve bien la volonté des nouveaux dirigeants libyens, un, de réconcilier tout le monde, deux, de mettre tous les acteurs engagés dans ce conflit devant leurs responsabilités, et surtout de multiplier les acteurs. Ils ont raison, les Libyens. Plus vous avez d'acteurs, plus vous pouvez développer le pays. Il ne faut pas être dépendant d'un seul intervenant.
Ça fait plus de courtisans
ou la France.
Et peut-être une meilleure marge de manœuvre pour défendre ses intérêts.
Tout à fait. Et je redis que l'Union européenne s'intéresse maintenant à la Libye parce que la paix revient. Hein. L'Union européenne a toujours peur de la guerre. Dès qu'il y a une guerre, elle est dans l'évitement. Et quand il y a la paix, elle cherche à faire des affaires. Voilà le principe de base de l'Union européenne. Mmh. Alors, vous pouvez imaginer dans les prochains mois, pourquoi ne pas imaginer qu'un accord d'association soit signé entre l'Union européenne et la Libye, comme il en existe avec la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Pourquoi
Merci.
Pas
Merci. Monsieur Dupuy, un mot peut-être sur les déclarations récentes d'Emmanuel Macron. Monsieur Scaboni vient vient de le dire. Il parle de guerre injuste, de conséquences terribles pour la Libye et le Sahel, de guerre absurde. Est-ce qu'au-delà des déclarations de responsabilité, il ne faut pas rechercher définitivement les coupables aussi ? Pour un meilleur départ entre la France et Tripoli ?
Alors, quand vous parlez des coupables de quelle période ? Avant 2011 ou période entre 2011 et aujourd'hui ?
On parle bien à partir du début de la guerre, l'attaque de l'OTAN.
Oui, alors bon, cette question a été laissée en suspens. Hein. D'ailleurs, le rapport de l'ONU consécutif donc à la déclaration de Genève, hein, donc le Libyan Political Forum Dialogue, le forum pour le dialogue politique libyen, laisse clairement envisager le fait qu'il faille mettre une justice transitionnelle en place. Alors elle aurait dû être transitionnelle dès 2011, la fin de l'opération Harmattan à partir d'octobre, et donc avec la mort, comme l'a rappelé Michel, de Muammar Kadhafi, elle n'a pas pu se mettre en place.
Mais maintenant, avec la déclaration de Emmanuel Macron, est-ce que cela change la donne ?
Non, ça ne change pas grand-chose. C'est pas Emmanuel Macron qui va procéder à quoi que ce soit. À la rigueur, Fatou Bensouda ou le successeur de Fatou Bensouda pourra le mettre en place, puisqu'un certain nombre de responsables libyens pourraient être traduits devant la Cour pénale internationale. D'ailleurs, Saïf al-Islam court toujours ce risque. Donc oui, c'est une question qui est pendante. Le président Macron l'a un peu éludé ou l'a évoqué de manière très, très, très vague, mais je crois que c'est un élément important. Néanmoins, je ne suis pas certain que ce soit le premier élément. Le premier élément, c'est qu'il y a pour l'instant une situation qui fait que la transition va durer 9 mois et qu'en 9 mois, il y a une masse tout à fait considérable d'obstacles à lever. Premièrement, ça a été mentionné précédemment, un référendum qui préparera ces élections, qu'elles aient lieu le 24 décembre ou après, c'est pas très important. Deuxièmement, le fait que la communauté internationale, c'est pas seulement l'Union européenne, mais bien la communauté internationale, avec un retour assez tonitruant des États-Unis. Les États-Unis ont décidé de nommer un envoyé spécial pour la Libye. Le président Biden a été très insistant, lui aussi, sur la fin de toutes les ingérences. Le président Biden n'a pas les circonvolutions oratoires du président Macron. Il a, lui, nommé aussi les pays avec lesquels il ne souhaite plus vendre d'armes, nommément l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, mais il n'a évidemment pas oublié la Russie et la Turquie. Mais après, il ne faut pas non plus oublier, puisque Michel Scarbucci de nouveau le mentionnait, le fait que bien sûr, le président du Conseil présidentiel a effectué sa première visite à Paris, mais il effectue une visite tout aussi importante dans les dernières heures au Caire, accompagné de son vice-président Abdullah Al-Lafi, et ensuite il ira à Ankara.
Donc
il y a aussi le rôle des pays du voisinage qui, je crois, pourrait être plus grand et plus important, à mon avis, que le rôle de l'Union européenne. D'une phrase, oui, ce serait intéressant d'avoir un accord d'association, pourquoi ne pas le faire à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne qui débutera au premier semestre 2022.
Ouda Ibrahim, on a parlé de reconnaissance, c'est assis tout à l'heure par M. Macron, du rôle de la France qui a une dette envers la Libye. Est-ce que finalement, il n'y a pas une nécessité de justice pour ces Libyens et peut-être aussi pour ces pays du Sahel? Puisqu'aujourd'hui, on parle de reconstruction, du côté justice, on n'en dit pas un mot. Ces pays qui ont participé, pour certains, à la destruction de la Libye, veulent encore participer à sa reconstruction sans qu'il n'y ait véritable établissement de responsabilité.
Eh ben, il n'y aura jamais. Je ne pense pas qu'il va y avoir, parce que des anciens du régime libyen ont tenté d'aller à la CPI pour juger l'ancien président français Sarkozy. Leur requête, malgré un très grand dossier, et j'ai discuté avec plusieurs avocats qui suivent ce mouvement, n'a pas été acceptée jusqu'à maintenant à la CPI. Là-dessus, j'ai l'impression, comme beaucoup d'Africains, beaucoup de nos auditeurs à RFI, qui disent la CPI, c'est finalement fait pour juger le président africain et jamais les autres.
Est-ce que vous pensez que c'est une nécessité, la réconciliation sincère entre la France et peut-être la Libye, ce nouveau départ dont vous parliez, aussi passe par là?
Écoutez, là, il se passe des choses par rapport à la période coloniale, par rapport à la France et l'Algérie et le rapport entre les deux pays. La France de Macron est en train de reconnaître certaines choses par rapport à ce dossier avec l'Algérie que personne auparavant n'a reconnu. Il ouvre l'archive
avec le Rwanda aussi.
L'Algérie, voilà, par rapport aux académiciens français, mais je ne vois pas pourquoi pas devant les autres qui sont en Algérie, les chercheurs, les historiens. Et il y a des choses qui sont en train de se dénouer. Oui, la justice et le rétablissement de bonnes relations passent par une reconnaissance. Et on a aujourd'hui en France un début de reconnaissance, mais pas vraiment une reconnaissance. Quand les Libyens vous racontent que celui qui a tué Mouammar el-Kadhafi, c'est un officier français, eh bien, il y a la moitié des Libyens qui croient à ça, et la France, à mon avis, doit rétablir une certaine vérité par rapport à ça pour qu'elle puisse revenir. Il y a beaucoup de Libyens qui s'en veulent beaucoup à la France pour ce qu'elle a fait en 2011.
Merci.
Et il y a beaucoup de Libyens qui s'en veulent à la communauté internationale, si la communauté internationale existe, pour ne pas faire le suivi, pour ne pas suivre ce pays sur le chemin de la démocratie, disons, après. Pour revenir à ce qui a été dit auparavant, oui, il y aura des accords entre la Libye, comme avec la Tunisie et l'Algérie et l'Union européenne, mais je pense que ça sera après, avec l'arrivée d'un gouvernement. Voilà, après les élections.
Merci beaucoup, Ouda Ibrahim. Désolé de vous interrompre. On se retrouve dans quelques petites minutes pour conclure notre débat.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et dans votre émission ce soir, nous débattons de ce qui fait courir les dirigeants européens en Libye avec trois invités. Ouda Ibrahim, journaliste à Radio France Internationale, Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, et Michel Scabonki, ancien député européen, spécialiste de l'Afrique et de la Libye. Monsieur Scabonki, je voudrais que vous disiez juste vraiment en un mot, un commentaire sur cette demande, cet appel de la justice, cet appel de justice des Libyens pour ce qui est cette guerre qui a entraîné leur pays dans le chaos.
Les interlocuteurs précédents ont tout à fait raison, madame. On ne juge que des Africains à la CPI, ce qui est tout à fait anormal. Aujourd'hui, vous avez le président, le chef de la junte birmane, qui est le premier trafiquant d'opium au monde, qui est en train de massacrer son peuple sous nos yeux, et ce monsieur n'ira jamais à la CPI. On pourrait citer comme ça des dizaines d'exemples de chefs d'État autocrates qui maltraitent leur peuple, et ils n'iront jamais à la CPI. Par contre, en Afrique, ils vont directement à la CPI.
Et pour ce qui est de la France en Libye, ou des autres, les Américains aussi?
Oui, oui, ben les Américains, eux, de toute façon, juridiquement, ils contestent, ils n'ont jamais signé la CPI, et ils ont, dans leur droit, il est interdit à un citoyen américain d'être jugé ailleurs qu'aux États-Unis. Donc ils se sont mis à l'abri de ce genre de déconvenus avec leur système législatif. Voilà, mais les Américains ont le droit de tout faire, sauf d'être condamnés.
Et pour la France maintenant?
Ben écoutez, pour la France, on verra. Moi, je crois que c'est la première urgence pour les Libyens, c'est une opération vérité, une opération réconciliation entre les Libyens. Vous ne pouvez pas imaginer. Moi, j'étais plusieurs fois en Libye pendant la guerre, après la guerre de 2011, la guerre de 2014, 2020, etc. Et vous ne pouvez pas imaginer les exactions qui ont été commises de part et d'autre. Et donc, il y a des divisions terribles, même au sein des tribus. Et donc, il faut commencer par ce travail de réconciliation nationale, qui est essentiel. Vous ne pouvez pas travailler à démocratiser un pays si vous ne réconciliez pas les parties de son peuple qui se sont opposées et qui se sont tirées dessus en permanence.
Merci beaucoup. Monsieur Dupuy, on va revenir à vous, Monsieur Skabonki, pour conclure. Monsieur Dupuy, on l'a bien compris, ce qui fait courir autant ces pays européens et d'autres aussi en Libye, ce sont des calculs, des jeux d'intérêts, de repositionnement. Mais finalement, quid de la souveraineté même de la Libye?
Oui, alors vous avez raison, c'est l'éternel problème. Je suis pas certain que les pays européens ne sont présents en Libye que pour ça. Les pays européens sont présents en Libye parce que d'autres pays y sont. Et donc, d'une certaine façon, ils suivent un agenda qui, malheureusement, leur est dicté par cette réalité d'un accord qui a été signé le 27 novembre 2019 entre la Turquie et la Libye, enfin le gouvernement d'accord national, entre une présence militaire russe non officielle, puisqu'il y a 2000 supplétif donc à travers la société de mercenariat Wagner, et évidemment la France, comme je le rappelais précédemment, certes ouvre son ambassade, mais elle a été fermée pendant 6 ans. Donc on ne renouvelle pas en quelques heures, en quelques minutes. Bien sûr, le président Emmanuel Macron a aussi nommé, ce qui va complexifier les choses, un haut représentant pour la Libye en la personne de Paul Soler, et d'une certaine façon on a l'impression que, comme après le conflit en 2011, il va y avoir des guerres picrocollines, si vous m'autorisez l'expression, entre le ministère des Affaires étrangères et la présidence. Je ne suis pas certain qu'il y ait de ce point de vue une concomitance d'agenda vis-à-vis de la reconstruction en Libye. C'est ce qui a été une des sources de la non-implication ou du désintérêt des Libyens vis-à-vis de pays comme la France. Mais encore une fois, il faut avoir à l'esprit qu'il y a un nouveau narratif, vous l'avez mentionné, qui est celui d'un rapprochement franco-italien. Le traité du Quirinal, qui va être rendu public d'ici quelques semaines, mentionne le fait que sur ce dossier, c'est pour ça que Mario Draghi se rendra aussi en parlant, j'espère, à la fois pour l'Europe, mais surtout dans le cadre de ce rapprochement diplomatique sur le dossier libyen, dans la perspective que nous soyons un acteur parmi d'autres. On n'est pas là pour remplacer les Turcs, on n'est pas là pour remplacer les Russes, on n'est surtout pas là pour remplacer les Libyens, mais nous sommes là parce que l'action que nous avons menée autour de la Libye, avec l'opération Irini, avec l'embargo sur les armes, nous oblige, et d'une certaine façon, à ce que cet engagement, de nouveau, j'allais dire en anglais le commitment, mais cet engagement, la communauté internationale, depuis la résolution 1073, après, qui a donc autorisé les frappes aériennes, comme l'a dit Michel Skabonki, nous oblige évidemment à rattraper ou réparer ce que nous avons cassé.
Mais Ouda Ibrahim, il reste 3 minutes, alors je vous propose en une minute de dire, on voit donc que si le nouveau gouvernement libyen fait autant l'objet d'attention, c'est pour les jeux d'intérêt, c'est pour se repositionner, mais est-ce que le nouveau gouvernement libyen peut quand même en tirer profit? Et comment ?
Le nouveau gouvernement, le nouvel exécutif libyen a une mission bien précise. Et s'il réussit, les membres de ce gouvernement et du conseil présidentiel seront vraiment des vrais héros. Et ils doivent mener le pays vers des élections. Mais là, déjà, on a des embûches, on a des problèmes. Il faut s'accorder sur une constitution. Et là-dessus, personne n'est d'accord. Est-ce qu'on revient à la constitution du temps du roi ? Est-ce qu'on refait la constitution qu'on a changée depuis 2011 deux fois ? Est-ce qu'on amende certains éléments, certains articles de cette constitution ? Personne n'est d'accord. Et si d'ici fin mai, on n'a pas mis le texte de cette constitution, il n'y aura jamais des élections en décembre.
Mais est-ce que ce sont les principaux freins, les principaux obstacles à la souveraineté même de la Libye ?
Pardon ?
Est-ce que ce sont ces aspects-là qui sont les principaux obstacles à la souveraineté de la Libye, dont tout le monde parle ?
Non, les obstacles à la souveraineté, c'est la présence des militaires étrangers, des forces étrangères, de mercenaires. Et ça, il faut absolument que ça se résout dans les premiers mois, durant ce 9 mois, ce 8 mois qui reste pour ce gouvernement. On a vu que le président du conseil présidentiel, Monsieur Manfi, il a été déjà en Turquie. Il a été en Turquie et il a réclamé le départ des mercenaires syriens. Maintenant, certainement, la Turquie va rester militairement, mais avec moins de membres de ces mercenaires. La Russie également. On a vu que des mercenaires soudanais ont traversé le Tchad pour revenir avec leurs véhicules et leurs armes personnelles au Soudan. Et certains Tchadiens se sont retirés aussi. Donc, c'est un dossier qui bouge, mais il faut aussi qu'il n'y ait plus de milices. Et merci malheureusement, beaucoup. À Benghazi, comme à Tripoli, les exactions continuent, les enlèvements continuent. Hier encore, on a enlevé un activiste de droits de l'homme. Et malheureusement, si on dissout pas les milices rapidement, la Libye a peu de chances de s'en sortir.
Merci beaucoup, Ouda Ibrahim. En tout cas, les nouvelles autorités ont dit qu'elles ne paieraient plus les salaires des mercenaires syriens présents sur le territoire. En deux mots, M. Skabonki, comment les nouvelles autorités peuvent-elles tirer profit de cette attention, même si elle est intéressée, des pays européens et des autres?
Écoutez, d'abord, je voudrais juste dire un mot sur M. Paul Soler, que le président de la République a désigné comme représentant de la France en Libye. C'est une excellente nouvelle. Cet homme connaît le pays, connaît les gens de Tripoli, connaît les gens de Benghazi. Il a une grande pratique de la Libye. Et c'est une excellente nouvelle pour la France, c'est une excellente nouvelle pour les Libyens. Parce qu'il sera un interlocuteur privilégié de toutes les parties. C'est l'homme de la situation.
Merci, vous restez 30 secondes sur ma question.
C'est une bonne chose, oui. Bah, écoutez, la souveraineté de la Libye, c'est très simple. D'abord, un président et une assemblée nationale élue démocratiquement, une opération de réconciliation nationale et le développement, une politique de développement. Voilà les trois axes du renouveau libyen. Et dans le cadre de relations multilatérales avec de nombreux acteurs dont j'espère la France et l'Union européenne.
Merci beaucoup Michel Skabonki, ancien député européen spécialiste de l'Afrique et de la Libye. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à Emmanuel Dupuis, président de l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, IPSE. Et merci beaucoup également à vous, cher consoeur Ouda Ibrahim, journaliste à Radio France Internationale et spécialiste de la Libye. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour une autre édition du Grand Rendez-vous. Merci à Hugo Vallière et à Edouard Ning qui m'ont aidé à vous proposer cette émission. Bonsoir.